Je vous l'avais promis, elle est avec nous en direct, docteur Salwa Al-Falah Al-Qadmiri, gynécologue, obstétricienne, spécialiste en chirurgie mammaire et gynécologique pour parler de ce fléau qui est l'endométriose qui touche, je viens de l'annoncer, 1,5 million à 2,5 millions de femmes en France, ce qui signifie que près d'une femme sur 10 est concernée et ça touche énormément aussi de jeunes femmes et ça provoque aussi de l'infertilité. On va parler avec le docteur Salwa Al-Falah Al-Qadmiri tout de suite. Bonjour docteur.
Bonjour Wassila. Je suis ravie d'être parmi vous sur Radio Orient.
Merci, merci. Par contre, on vous entend un peu loin. Si vous pouvez vous rapprocher juste du micro de téléphone.
Allô ?
Oui. Ça va mieux.
Est-ce que c'est mieux ?
C'est nettement mieux. Voilà.
Parfait.
Merci. Donc, on va commencer par le commencement. Docteur, qu'est-ce que l'endométriose et ses symptômes et où est-ce qu'elle se forme ?
D'accord. Donc, l'endométriose, c'est une maladie chronique de la femme en âge de procréer. Elle est due à la présence des cellules endométriales en dehors de l'utérus. Ces cellules endométriales, j'explique c'est quoi l'endomètre pour que les gens comprennent un petit peu.
Mmh.
L'endomètre, c'est une paroi qui tapisse de l'intérieur l'utérus. La majorité de l'endomètre est éliminée pendant les règles. Ces cellules endométriales, ils se comportent comme un utérus et en dehors de l'utérus.
Mmh.
Donc, sauf que à la place, au lieu de saigner à l'extérieur, ça saigne à l'intérieur. Et ça crée des nodules, des kystes, des adhérences, d'où ça vient les lésions de l'endométriose.
Sur la paroi de l'utérus.
En fait, c'est de la paroi, non, ça, les cellules endométriales migrent via les trompes, dans la cavité utérine, et ça forme des kystes dans la cavité abdominale. Ça peut former des lésions au niveau de la vessie, au niveau du rectum, au niveau des utérosacrés, au niveau de la cloison recto-vaginale. Et en fonction de leur localisation, on va avoir différents symptômes.
Donc c'est extra-génital, en fait.
Exactement. Donc, c'est des cellules. Au lieu que ça soit, ça reste au niveau de l'endomètre, ils migrent au-delà. Ils se comportent comme un utérus, mais en dehors de l'utérus.
D'accord. Et comment le diagnostiquer l'endométriose?
Alors, le diagnostic de l'endométriose, le plus souvent, il est tardif, de 5 à 7 ans, car on a longtemps banalisé les douleurs des règles. On a toujours dit que c'est normal qu'une femme a mal pendant ses règles. Mais sauf que, certes, on peut avoir des spasmes, des petites douleurs, mais si ces douleurs de règles, qui deviennent non soulagées par des antalgiques type doliprane passant, il faudra consulter. C'est le premier signe de l'endométriose, c'est les douleurs au moment des règles, ce que représente, ce qui est présent dans 80% des cas. Le deuxième signe, bien sûr, qui est assez fréquent aussi, présent dans 40% des cas, c'est la dyspareunie profonde. Ça veut dire quoi, la dyspareunie profonde? C'est les douleurs au moment des rapports sexuels, lorsque le pénis touche le fond du vagin. Ça, par contre, ça peut créer des réels problèmes au sein du couple. Pour plusieurs raisons, en fait, parce que ces douleurs, à cause de ces douleurs, la patiente appréhende ces douleurs au moment de la pénétration, par anticipation. Elle devient plus contractée, ce qui majore ces douleurs, et ça génère un cercle vicieux, et par la suite, ça diminue les désirs sexuels, donc il faudra une bonne communication au sein du couple et une bonne prise en charge par un sexologue et par un kinésithérapeute.
Est-ce que la femme pourrait consulter avant une éventuelle relation conjugale, par exemple, avant le mariage, savoir quels sont les tenants, les aboutissants de cette problématique pour essayer de régler ce problème avant de démarrer une relation, surtout que peut-être après, ça peut tomber sur une personne ou un conjoint qui ne comprend pas l'ampleur du problème et ça peut créer des problèmes de couple après.
Oui, bien sûr, parce que si une patiente a des douleurs au moment des règles, parce qu'on sait très bien que le premier signe, c'est les règles quand même, c'est les douleurs au moment des règles, si elle a des douleurs insupportables, il faudra consulter. Donc, si elle n'a jamais eu de rapport, donc si elle est vierge, elle peut faire une IRM pelvienne, et l'IRM pelvienne peut donner déjà une idée s'il y a des lésions d'endométriose ou pas. Donc, on pourra prendre les lésions d'endométriose à temps et éviter que ce soit des formes graves, ça évoluera vers des formes plus graves.
Donc,
Donc, d'où l'intérêt de consulter quand même un gynécologue, même si on est vierge et on a des douleurs au moment des règles.
ça peut provoquer une infertilité, apparemment, l'endométriose. Comment une femme pourrait sauver sa congéniture?
Oui, bien sûr, ça peut provoquer une infertilité parce que d'ailleurs, le pourcentage des patients qui ont des problèmes de fertilité quand ils ont de l'endométriose, c'est énorme. C'est entre 30 et 40%. Donc, et c'est la première cause de problèmes de fertilité en France, l'endométriose. Bien sûr, moi, quand les patientes viennent me voir, il faudra expliquer à la patiente que si elle n'a pas de désir de grossesse immédiat, qu'il y a une alternative, surtout si elle a des endométriomes, c'est-à-dire que l'endométriose se localise au niveau de l'ovaire, on a un risque de diminution de la réserve ovarienne. Et c'est là qu'on propose la cryoconservation ovocytaire, qu'elle peut la faire en France, on peut la faire entre 25 ans jusqu'à 37 ans. Elle est plus efficace si on la fait avant les 35 ans. Et elle peut congeler, donc je les adresse vers des centres de référence, des hôpitaux en fait pour l'instant. Donc il n'y a pas de clinique, c'est surtout les hôpitaux, les CHU, l'hôpital Tenant, Montsouris, tout ça. Donc on peut congeler, donc ça se fait par vitrification, c'est-à-dire on congèle les ovocytes, c'est-à-dire d'abord on stimule les ovaires et on congèle les ovocytes par congélation rapide à l'azote liquide. Elle peut les utiliser une fois qu'elle a un désir de grossesse. Elle essaye le plus souvent, on leur conseille d'essayer de tomber spontanément enceinte. Si elle n'arrive pas, ben on les décongèle et on fait une fécondation in vitro.
Donc, ça peut aussi garder un espoir pour le couple et surtout pour la femme qui peut être atteinte d'un problème vraiment psychologique parce que chaque femme a besoin de vivre sa maternité. C'est vrai que c'est un problème qui peut la heurter pendant des années psychologiquement. Au niveau du traitement, parce qu'on en a parlé en dehors de l'antenne des différents traitements, qu'est-ce que vous proposez, docteur?
Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif pour l'endométriose, mais on a des traitements pour soulager les douleurs et aussi des traitements préventifs. Alors, quand on comprend, et c'est pour ça que c'est bien de comprendre la physiopathologie de l'endométriose, donc on dit qu'au moment des règles, il y a un reflux de cellules endométriales via les trompes, ces cellules se localisent au niveau du ventre, donc on comprend bien, on en déduit que la pierre angulaire du traitement de l'endométriose, c'est supprimer les règles. Et on peut y arriver grâce au traitement hormonal en continu, qu'elle soit sous forme de pilule, sous stérilet ou autre moyen de traitement en fait hormonal. Et ça marche bien chez les patientes. Et dans certains cas même, il y a un traitement hormonal qui s'appelle Dynogest, qui est maintenant reconnu par le premier traitement de l'endométriose par la société international d'endométriose, ça réduit même quand il y a des kystes, dont 70% les tailles des kystes. Il n'y a pas de traitement curatif parce que l'endométriose, on a une prédisposition génétique de la développer. Il y a aussi les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, donc d'où le traitement préventif, eh ben, ce qu'on mange, les pesticides, les perturbateurs endocriniens et les aliments ce qu'on mange habituellement ou tous les jours. C'est-à-dire, s'il a été démontré, c'est que chez les patients endométriosiques, je leur conseille de diminuer leur consommation de viande rouge, leur consommation de produits laitiers, leur consommation de tout ce qui est piment, parce que tous ces aliments-là, ce qu'on appelle les aliments pro-inflammatoires, ça crée de l'inflammation, donc ça majore les symptômes. Par contre, il faudra privilégier une alimentation riche en oméga-3. L'oméga-3, on les trouve dans l'huile d'olive, dans l'huile de noix et aussi dans les poissons sauvages tels que sardines, le maquereau et ainsi de suite.
Vous avez parlé aussi, en dehors de l'antenne, quand on a préparé cette émission, de la kinésithérapie gérer cette période.
Alors, la kinésithérapie, parce qu'il faut imaginer que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Qui dit inflammation, c'est-à-dire ça crée des fibroses, tout le pelvis est gelé. Gelé, c'est-à-dire il est hypertonique, les muscles sont très contractés, donc la kiné, déjà, ça permet en fait à viser décontractante. Ça entraîne le relâchement de ce muscle et rend ce pelvis plus élastique, plus souple. Mmh. Et ça, c'est très important dans la cadre de prise en charge de l'endométriose. Surtout maintenant, on dit que la prise en charge d'endométriose, c'est pas une prise en charge que par la gynéco, c'est une prise en charge interdisciplinaire, c'est-à-dire par un sophrologue, par un kiné, par un sexologue si besoin, par plusieurs intervenants pour améliorer la qualité des vies des femmes, parce que l'endométriose, quand même, ça entraîne une fatigue, un stress chronique chez les femmes, et ça peut, comme on avait dit auparavant, entraîner des problèmes de couple. Donc, il faut vraiment mettre tous les moyens pour améliorer la qualité de ces femmes.
En tout cas, c'est un sujet qui touche, comme on a dit, beaucoup de femmes. J'espère que vos conseils vont profiter à ces dames, aux personnes aussi qui n'ont pas cette endométriose, mais au moins qu'ils préviennent, qu'ils informent autour d'elles des personnes qui en sont touchées. Un dernier mot avant de finir, on n'a jamais assez de plaisir à vous écouter.
Aussi. Comment ? On n'a pas parlé du sport, l'intérêt.
Mais
du
oui,
sport.
Mais oui, allez, le sport, allez, on passe par le sport.
Alors, rapidement, le sport, il y a une étude en cours qui s'appelle l'étude Crescendo. C'est une étude qui veut démontrer l'intérêt du sport dans la prise en charge d'endométriose. Parce que l'endométriose, malheureusement, en fait, on a mal, on est figé, donc le sport, ça permet déjà de, grâce au sport, on peut produire d'endorphines, qui est un antalgique naturel. Et en dehors de ça, ça permet de relâcher tout le muscle. Donc les sports qui sont bien conseillés chez les femmes, c'est le pilates, yoga, et on peut faire aussi de la cardio.
Et bien voilà, donc ces conseils sont précieux pour nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup, Dr Salwa Al-Falah Al-Qadmiri.
Un dernier mot, de demain, c'est la journée internationale des femmes.
Oui.
Bah, juste un petit message aux femmes, soyez fortes, ayez confiance en vous et ne laissez jamais démotiver par quoi que ce soit.
Eh ben, c'est un très, très bon conseil. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous, on vous souhaite une très, très belle journée aujourd'hui et demain et pour toujours. Je rappelle que Dr Salwa Al-Falah Al-Qadmiri est gynécologue, obstétricienne, spécialiste en chirurgie mammaire et gynécologique. Je vous dis à très bientôt. Merci.